Pierre-Yves, Apple va payer 38 milliards de dollars d'impôts sur ses bénéfices à l'étranger.
Ça fait longtemps qu'on parle des états financiers de Apple qui a beaucoup, beaucoup de milliards de stockés. Et le gouvernement américain dit « Vous allez avoir le droit de rapatrier des fonds à un certain taux. » Et si vous ne les rapatriez pas, de toute façon, vous allez être imposé. Donc, évidemment, Apple en profite et fait un communiqué de presse du genre « Hey, on est un bon citoyen, on va payer 38 milliards. » Regardons les états financiers, Paul. Chez Apple, oui, on génère beaucoup de milliards de profits. Là, tu sais, pour les 12 derniers mois, on avait généré à peu près 48 milliards de profits. Mais dans les états financiers, on voit des placements à court terme en bourse, 54 milliards. Qu'est-ce que tu fais avec ça si t'es une entreprise, à part pour stocker? Il y avait aussi 195 milliards de placements dans des placements qui s'échangent rapidement, donc en bourse. Donc, il y avait beaucoup d'argent stocké chez Apple pour différer l'impôt, parce que l'impôt américain s'impose seulement lorsque tu rapatries l'argent dans le pays. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? On stockait l'argent ailleurs et on différait l'impôt. Et là, le gouvernement a dit, bon, on fait une mesure en place. Et Apple dit, on va payer 38 milliards, on est des bons citoyens. Attention, 38 milliards, mais vous avez profité d'un genre d'évitement fiscal longtemps.
Le taux, je regardais ça, le taux d'imposition n'est pas le même pour rapatrier les bénéfices réalisé à l'étranger, c'est 8 % mais pour les actifs illiquides, qu'est-ce qu'on veut dire par illiquide? C'est pas de l'argent liquide, autrement dit?
Non, mais c'est des actifs qui sont difficilement transformables en liquide, donc c'est pas des choses qui sont très, très faciles à transformer, à vendre, puis à stocker, puis à revendre en dollars. Donc, tu rapatries, par exemple, des placements ou des choses qui ne sont pas
vendables. Et ça, c'est 8 % le taux d'imposition.
Ouais, tu feras pas une transaction.
Si tu rapatries du liquide, là, ça monte à 15,5 %. Oui. Là, ça fait
quand même pas cher, tu sais, quand on t'a permis de différer pendant des années de l'impôt.
Non, c'est pas cher par rapport à nous, citoyens du Québec.
Non, mais c'est des entreprises. C'est
contribuables. Non, je sais que c'est différent. Mais je dis ça, là, je parle en termes de pourcentage imposé.
Oui. J'aime bien le 53,31, Paul. Ça fait mal.
Hausse du taux directeur à la Banque du Canada. C'est inévitable. C'est parti à la hausse. D'ailleurs, la Banque du Canada, Pierre-Yves, relevait son taux directeur pour la troisième fois en 6 mois pour le porter à 1,25.
Et on s'approche des Américains. Et le taux d'inflation 2,1 dépasse 2 % qui est la cible. On a beaucoup d'endettement au Canada et les analystes disent « là, on prévoit à peu près 3 hausses de taux dans la prochaine année, donc on pourrait monter jusqu'à 2 %.» Ça, c'est le taux directeur. Là, les gens disent « c'est tellement beaucoup de hausses », mais si on se rappelle, si on retourne en arrière, tu sais, en 2008, on avait un taux directeur de 4 %.
Absolument.
C'est la crise qui a fait baisser le taux jusqu'à 0,25, tu sais, aux alentours de 2009 en avril, mais dans le passé, on payait beaucoup plus cher les prêts hypothécaires. Et ceux qui ont acheté des maisons depuis 2008 ont comme oublié un peu. C'est quoi un taux d'intérêt de 6-7% sur un prêt hypothécaire?
Mais moi, attends une minute. Moi, 6-7%. On voit que t'es jeune encore, Pierre-Yves.
Oui, mais Paul, quand t'as eu ton 20%, j'étais un enfant. J'étais un embryon.
J'étais un enfant. Tu t'en occupais pas. Mais moi, il y a des gens à l'écoute qui ont renouvelé leur hypothèque à 20-21-22% au début des années 80.
Il y a des gens au début des années 80 qui ont vendu les immeubles moins chers qu'ils ont payés pour se débarrasser de la dette.
Oui, mais par contre, une chose, quand tu investissais et que tu mettais de l'argent de côté, ça rapportait.
Oui, mais il n'y avait pas de titrisation beaucoup dans ce temps-là, Paul. Ça veut dire que maintenant, vous prenez votre prêt, vous allez à la banque, vous faites assurer votre prêt par la CHL, la banque n'a pas de risque, revend ça en paquet, retrouve de nouvelles liquidités et reprête, et ça permet de maintenir les taux à un taux un peu plus bas aussi. Mais il y a aussi tout un contrôle qui se fait pour éviter des chutes, parce qu'on sait très bien qu'avec l'endettement canadien, si on augmentait drastiquement les taux, ce serait fini.
Mais ben oui.
Les marges de crédit vont payer.
Pas seulement au Canada, d'ailleurs, partout, toutes les nations qui augmenteraient leur taux directeur de façon drastique, ce serait la catastrophe.
Oui, et là, on va payer plus pour notre marge de crédit parce que c'est basé sur le taux directeur, sur les prêts hypothécaires qui sont dits variables, et ceux qui ont des prêts hypothécaires à taux fixe vont garder leur taux fixe, mais dans 5 ans, cette hausse-là risque d'augmenter ou faire influencer les taux obligataires, et les taux obligataires génèrent le taux d'intérêt fixe, et c'est pour ça que les banques canadiennes ont déjà relevé leur taux de grille des prêts 5 ans. Donc, on va avoir un impact sur nos prêts hypothécaires. Ça va nous coûter plus cher sur le moyen terme.
Le salaire minimum est passé, Pierre-Yves, aujourd'hui à 12 $. C'est l'une des plus grandes, je pense que c'est la plus grande augmentation d'un coup, parce que c'est 75 cents de l'heure qui va s'appliquer à partir du 1er mai.
Et c'est comme le jour de la marmotte. Hein. C'est toujours le même débat. C'est, t'as les entrepreneurs, les représentants du conseil du patronat, les représentants des entreprises qui sortent en disant « on va pas y arriver, c'est donc épouvantable ». Et d'autre côté, les gens qui disent « oui, mais ça nous prend un salaire minimum en hausse concurrentielle avec le reste du Canada ». Donc, c'est un peu ça toujours le débat, c'est de trouver ce fameux équilibre entre donner une hausse pour permettre à des gens de ne pas exploiter par l'offre, de ne pas être exploités par l'offre et la demande. Parce que, n'oublions pas, à l'âge de mon grand-père, dans une usine de coton, quand c'était l'offre et la demande qui généraient les salaires, moi, te le dire, le salaire minimum était bon. On dit, implicitement, les gens gagnaient presque rien. On exploitait un peu les gens. Là, ça permet aux gens qui n'ont pas la capacité de négocier ou la valeur marchande, si on veut, au niveau de l'employabilité, de se faire garantir un salaire minimum puis d'être protégé. D'un autre côté, évidemment, si on augmente trop rapidement le salaire minimum, c'est toujours le même débat. Il y a plus de pertes d'emploi, il y a des coupages d'heures parce que les prix ne sont pas ajustés sur le marché dans l'offre et la demande pour le client à la même vitesse. Tu sais, prenons, je suis allé par exemple à Paris, il y avait sur les Champs-Élysées, Paul, un McDonald's. Je suis rentré juste pour voir ce que ça avait l'air. Et quand tu rentres, tu as un long corridor. Sais-tu à quoi il sert le corridor? Mmh. C'est des iPads géants chaque côté où t'es comme influencé d'acheter ton menu là d'avance. Et si tu veux aller plus loin, tu vas rencontrer des humains. Mais sur des dizaines et des dizaines de pieds, tu vas rencontrer des écrans tactiles.
On a des endroits comme ça ici aussi.
Oui, mais imagine, c'est comme si c'était le premier service et l'humain vient après. Oh, donc, oui. C'est un exemple de coût qui est automatisé, qui coûte moins cher à long terme et qu'on amortit. Donc, c'est pas facile quand même de jouer avec cette notion-là de salaire minimum parce que c'est une zone grise, c'est pas facile et tout le monde mérite un salaire décent.
Et t'as remarqué que le Big Mac, avec l'indice Big Mac, est plus élevé à Paris, le prix, qu'à Montréal.
C'est pour dire que le pied carré à Paris, Paul, au pelage, oui. C'est pas donné. Hein? Avoir un commerce là-bas, faut que tu vendes.
Merci, Pierre-Yves.
Salut, Paul.